pas quoi vous dire. Je suis pressée, j'ai beaucoup de courses à faire, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et puis je m'arrête, heureusement qu'il y a des vitrines pour que ces contraintes deviennent un peu agréables. C'est un peu la magie de Paris. Voilà.
Ça vous sert à quoi ?
C'est pour faire une pièce radio.
C'est-à-dire
une pièce qui passe à la radio, en fait.
Ah, je pensais que vous essayiez d'écouter les sondes qu'il y avait. Je sais pas, avec votre micro, vous étiez en train de marcher comme ça, c'est pour ça.
Ah, c'est une
bonne idée.
Ouais.
Vous allez faire ça pour quelle radio ?
Radio Panique à Bruxelles.
Ah, ok, vous n'êtes pas du tout d'ici, alors ?
Non, on est venu voir un concert et on a profité de ça.
Pour bosser un peu. Bah, bon courage, hein.
Merci.
Beaucoup de chance. Hein.
Merci.
Là, quoi.
Au revoir.
Au revoir.
Transport de viande 32 sur l'échelle de Richter. La troisième oreille.
Les gens de panique.
Vacuum.
Angelo Fauci.
Angelo, j'aimerais que tu me racontes comment tu as connu panique, comment tu es arrivé à panique.
Ben en fait, ça remonte à plus ou moins il y a 2 ans. Et ma copine, qui est toujours ma copine, donc, qui s'appelle Virginie Devillé, connaissait via l'ULB Laurence Brognier. Et c'est via Laurence, au fait, que j'ai connu la radio. Bon, disons que j'ai connu la radio de l'intérieur parce que je connaissais Radio Panique en tant qu'auditeur et en tant que si j'allais aux soirées Panique. Donc elle nous a ouvert les portes, hein, et on avait un projet d'émission à l'époque. C'était une émission qui s'appelait Vacuum, qui passait une fois par semaine. Et le but de l'émission était de recevoir toutes les semaines un invité qui faisait soit l'actualité du moment, soit qui avait un projet, qui voulait nous en faire part. Et on a tenu plus ou moins un an. Après, bon, on était un petit peu démotivés, puis on était à 3 à la faire.
Démotivés, pourquoi ?
Démotivé parce que c'était difficile en travaillant de contacter des gens. Par exemple, on a eu les cafés philo, on a eu des organisateurs du festival du film Gay et Lesbien, on a eu un avocat qui est venu nous parler du statut de l'artiste. Et bon, toutes les semaines, je veux dire, quand on a des invités, il faut quand même préparer des questions pertinentes, etc. Et ça nous prenait beaucoup de temps, surtout à Virginie. Et puis après, bon, on était un peu... On a vu qu'on commençait à tourner un peu en rond. Puis bon, les fréquences d'émission, c'était plus une fois toutes les semaines, c'était une fois toutes les 2 semaines. Et la deuxième semaine, je venais passer des disques pour un peu varier, alterner. Mais on s'est aperçu que bon, il valait mieux qu'on arrête et qu'on cède la place à des gens qui étaient peut-être plus motivés que nous, qui avaient peut-être un projet qui dure plus longtemps que le nôtre.
Est-ce qu'il y avait du retour par rapport à vos émissions ? Est-ce que vous vous sentiez seul ?
Bien, au début, quand on abordait les personnes, parce que souvent, par exemple, les cafés philo, où on a été, alors, ils font des réunions tous les dimanches, donc on s'est rendu à une de leurs réunions. Puis quand on aborde les gens et on dit « oui, on vient de la part de Radio Panique », ça faisait pas tellement... Il n'y a pas de crédit comme ça, hein. ça fait un peu léger, là. Tiens, Radio Panique, il y a des personnes qui ne connaissaient pas, donc là c'était un peu, pour les convaincre, il fallait argumenter davantage, mais bon, ça se passait souvent bien. Puis il y a des personnes qui connaissaient, donc, qui étaient ravies de pouvoir venir s'exprimer pendant une heure à la radio, donc ça c'était évidemment, dans ce cas-là, c'était plus facile.
Les gens de panique.
Carmelo Iannuzzo, permanent rémunéré de Radio Panique.
Bon Carmelo, comment es-tu arrivé à Panique? Comment as-tu abouti à Radio Panique?
Ben, je connais toujours un certain Constant Mathieu, qui est un des vieux animateurs de la radio dans l'émission Electrosolt, qui était dans les joyeux organisateurs des soirées Radio Panique. À ce moment-là, j'avais le désir de travailler dans une association culturelle. Il y avait ça ou partir en coopération développement. Donc je cherchais un peu sur les deux pistes, voir un peu s'il n'y avait pas un truc intéressant, parce que j'étais assez libre à l'époque. Et alors quand je suis tombé sur Radio Panique, ça rejoignait tout à fait un, si tu veux, le projet associatif que j'avais dans la tête.
À savoir,
d'une part, le nombre de personnes qui étaient membres ou engagées dans l'association. Mais pas seulement le nombre, mais plutôt la diversité des personnes. Parce que là, on trouvait à la fois des gens, des jeunes qui avaient 18 ans, jusqu'à des personnes relativement âgées, 50 et plus. On trouvait des gens d'origine socioculturelle différente, de communautés différentes, à la fois donc, au niveau ethnique, mais aussi au niveau culturel, au niveau musical, au niveau artistique. Donc il y avait un brassage incroyable de personnes complètement différentes qui étaient là, présentes autour d'un émetteur radio et qui avaient un projet collectif qui était la radio. Donc j'étais dans un univers scientifique, mais vraiment scientifique comme on peut l'imaginer. J'étais en physique théorique, donc je travaillais dans un bureau avec des bouquins et du papier blanc et un crayon. J'allais des fois à des séminaires à l'étranger. Donc c'est tout un univers qui était assez renfermé sur lui-même. Et la question de la physique théorique, la question de la gravitation, du trou noir, etc. Toute la question humaine, justement, est évacuée dans ces problèmes-là. Ça, c'est tout d'un coup un manque important que j'ai ressenti durant ma thèse, après la première année, et puis c'est encore affirmé durant la seconde année, et puis j'ai abandonné ma thèse. C'est que j'avais un besoin crucial de rencontrer les gens, rencontrer la société. Je ne suis pas dirigé directement vers l'associatif. J'ai d'abord fait encore une licence spéciale en gestion de l'environnement et à travers cette licence, j'ai fait des stages. J'ai fait un stage dans un bureau privé d'architecture et d'études environnementales. Puis j'ai fait un stage dans l'administration publique de la région bruxelloise. Et alors, à la fois ces deux secteurs que je ne connaissais pas du tout, qui étaient à la fois un bureau privé avec une dizaine de personnes, et à la fois une administration avec 1000 personnes, avec toute une hiérarchisation, etc. À la fois, ces deux trucs m'ont complètement déçu et ne m'ont pas plu du tout.
Pourquoi ?
D'une part, dans le bureau privé, il y avait un aspect commercial qui me dégoûtait, mais qui correspondait pas à mes valeurs. C'est-à-dire, quand tu vois un bureau qui triche, on peut le dire, qui ne tient pas ses engagements dans le contrat, mais qui essaie de faire en sorte de respecter des délais, des contraintes commerciales pour essayer d'avoir le marché, etc. Et finalement, tu vois que l'environnement ne devient plus qu'un objet de marketing, qu'un but et un objectif politique. Là, je me dis, non, là, je ne suis pas d'accord. C'est pas pour ça que j'ai fait ma licence spéciale en gestion de l'environnement. L'administration publique, il y a un peu la même chose. Là, c'est peut-être pas un objet de marketing, mais ça devient un objet politique. C'est un peu une vitrine aussi politique à défendre. Et puis alors là, dans l'administration, tu as affaire à une administration complètement hiérarchisée, avec des fonctionnaires qui font leur boulot et qui attendent 5 heures pour partir. Il y avait un manque d'engagement au niveau de l'individu, mais c'est l'administration, c'est la structure qui ne le permettait pas. Donc j'avais Il y a aussi quelque chose, c'est qu'au niveau individuel, ce que je recherchais, c'était vraiment un engagement assez complet, entier, mais aussi un travail où une série d'aptitudes soit demandée, ou tu vois, si je prends comme justement l'exemple du boulot que je fais à Radio Panique, je fais à la fois la comptabilité, je fais à la fois les relations communication avec l'extérieur, coup de téléphone, rendez-vous, etc. Je fais à la fois les dossiers pour chercher des subsides, je fais à la fois des réunions qui sont dans un cadre soit socioculturel, soit carrément on peut dire politique. C'est assez varié comme boulot. Des fois je me retrouve à quatre pattes dans le studio pour essayer de résoudre un problème. Donc c'est très varié comme boulot. Et c'est ça qui me plaisait fort au départ, et ça j'en ai eu. Je peux dire que j'ai été servi dans. J'ai été servi quoi. Il y a eu plein de boulot à faire, il y a toujours plein de boulot à faire, j'ai pas assez de temps. Et seul, j'arrive pas à faire tout le boulot qu'il y a à Radio Panique.
Donc dans la réalité Radio Panique, ce qui te branche le plus, c'est l'aspect association et pas tellement la radio.
La radio, je la connaissais pas du tout, en fait. Je connaissais pas la radio. Ça, je l'avoue. C'est clairement le côté associatif qui m'a attiré et le projet associatif en tant que tel qui m'a attiré. Et la radio a été plus le substrat qui fait que cette association existe, en tout cas à mes yeux. Moi, je n'ai pas vu ça comme le premier but en soi, ça aurait pu être un autre objet social. Mais il y a quand même un côté qui m'intéresse fort à travers. Il y a un projet quand même dans ce regard, l'objet social de la radio. Cette association cherche à ce qu'il y ait une expression pour tout le monde, une expression donc démocratique, et que justement une série de groupes marginalisés dans notre société soient représentés et puissent s'exprimer. Et là, c'est quand même si c'est pas le média radio en particulier, mais c'est via ce médium radio, il y a cet objet social qui est défini. Donc ça aurait pu être aussi un journal, ça aurait pu être une télévision, une télé locale, etc. Mais c'est vrai que, ça, je ne le savais pas au début, mais là maintenant, je m'aperçois que le médium radio répond très bien justement à tous ces critères. Il y a un caractère souple à la radio, il y a un caractère donc souple à quel niveau? À la fois au niveau technique, la technique n'est pas très compliquée, au niveau des moyens financiers, il ne faut pas beaucoup de moyens financiers pour faire une radio. Donc il y a tout un caractère souple, un caractère très dynamique, c'est-à-dire que contrairement à un papier qui est édité tous les mois, où il y a un travail figé, la radio, ça vit 24 heures sur 24. Donc c'est quelque chose, c'est une association très bouillonnante. Je crois que le milieu associatif est le milieu adéquat pour commencer à avoir une action citoyenne, en fait. C'est clair et net. Je crois que dans une boîte privée, dans une administration publique, ou dans... tu peux pas avoir une dans le secteur privé ou le secteur public, tu peux pas avoir une action citoyenne, véritablement, au sens premier du terme. C'est vraiment de l'associatif. Et donc j'avais cette envie d'action citoyenne. Et j'ai trouvé au départ que Radio Panique était un cadre adéquat et remplissait déjà des fonctions que d'autres associations remplissent difficilement par la magie du médium radio. Donc c'est clair qu'il y a un engagement politique en étant à Radio Panique de ma part.
Au départ, Radio Panique était dans. S'insérait dans une sorte de mouvement antiraciste et un mouvement des droits de l'homme et du citoyen. Je crois que son image était assez marquée de ce point de vue, disons, politique. Est-ce que la Radio Panique que tu as trouvée ou qui est là maintenant a encore une telle image politique?
Non. Non. Pas à travers sa programmation. Plus à travers sa programmation. À part quelques émissions qui sont très chouettes. Ça, c'est un peu un travail que j'essaie d'effectuer, c'est de que des émissions de ce type-là reviennent sur la radio. Bon, maintenant, ça, c'est au niveau de la programmation, mais indirectement, et ça, c'est ce que j'essaie de défendre justement dans mes dossiers, c'est indirectement, oui, indirectement, via la présence de différentes communautés, que ce soit artistiques, culturelles ou ethniques, je ne sais pas si c'est le bon terme. Je dis ethnique parce qu'il n'y a pas que des pays, il y a aussi, tu vois, il y a une mission assyrienne, il y a une mission. Oui, il y a une mission assyrienne qui ne correspond pas vraiment à un pays. Là, on remplit notre rôle. Mais ça, c'est un travail justement que je suis en train d'effectuer là maintenant, c'est essayer d'intéresser, de faire revenir tout milieu associatif bruxellois qui est assez riche vers la radio. Parce que si on regarde un peu les associations qui travaillent un peu au niveau des droits des citoyens, au niveau des droits sociaux, au niveau qui mènent un combat démocratique, disons, et qui s'occupent de groupes marginalisés, soit économiquement pauvres, soit non reconnus culturellement. Ces associations ont l'habitude de chaque fois d'éditer un journal, ou maintenant, ce qui est à la mode, c'est Internet, font un site sur Internet, mais oublient tout à fait le médium radio. Et ça, c'est un peu un combat que je mène actuellement. Et ça, c'est pas le cas, c'est pas la situation en France. En France, le médium radio a encore une valeur, une importance, un rôle à jouer. Et en Belgique, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, qui a été oublié.
Oublié donc par le monde associatif lui-même, par le monde qui bouge.
Exactement.
C'est bizarre. On peut trouver des explications à ça.
Bah, l'explication, je crois que c'est l'image de la radio qui s'est détériorée au fil des années. Et ça, c'est. Si tu compares justement à la France, tu as eu dès 83, tu as eu la création d'un fonds structurel pour les radios, parce que donc justement ces années-là, les années 80, où tu avais toutes ces radios libres qui apparaissaient, et qui justement apparaissaient dans une mouvance sociale, militante, eh ben, tu as eu ce fonds structurel qui s'est créé, où justement, pour accéder à ce fonds, il faut respecter toute une série de respecter un contrat programme qui demande une certaine implication sociale de la part de la radio, qui ne demande pas une implication culturelle aussi. Et donc ça, c'est un contrat, si tu veux, qui a eu lieu en France entre les radios associatives et l'État. Voilà, ok, on fait un fonds structurel pour vous, mais alors vous devez jouer ce rôle-là. Et ça, en Belgique, il n'y a pas eu du tout. Et alors, il y a eu cette bande FM qui s'est détériorée en Belgique, où c'est des réseaux commerciaux qui ont pris le dessus, avec des audiences de plus en plus grandes que les radios d'État. Et maintenant, si tu parles aux jeunes, aux jeunes et les quelques jeunes qu'on arrive à faire venir à Radio Panique, ils ont tous en tête le modèle Radio Contact, Bell RTL. Donc il y a vraiment un appauvrissement de la culture radiophonique en Belgique. Et ça s'explique, oui, politiquement. Si tu regardes l'histoire depuis les années 80, c'est clair et net.
Et que personne ne l'oublie.
Et je me perds un peu dans mes idées.